Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il faudra certainement encore du temps pour prendre la mesure des conséquences globales en termes de santé de la crise que nous traversons. Analyser les chiffres, recueillir les témoignages, comparer les expériences. Mais avant de disposer de toutes les données, assez rapidement, certaines tendances se sont dessinées, comme l'alarmant abandon du suivi des maladies chroniques et comme l'impact des situations inédites, sociales comme médicales, confinement, suspension d'une partie des consultations face à face, pour les personnes nécessitant une prise en charge en santé mentale, santé psychiatrique et particulièrement prise en charge des addictions en contexte de crise sanitaire. C'est donc notre sujet du jour. Cette période propice au stress, à l'angoisse, période d'isolement et de restriction des libertés de mouvement, ont-elles pu développer des comportements de dépendance ? Certaines personnes sont-elles allées chercher un réconfort dans des substances addictives ? Alcool, tabac, cannabis ou des activités comme le jeu? Comment les patients en sevrage ont-ils pu être suivis? Ces questions, les membres de l'Académie de médecine se les sont posées dès le mois dernier en soulignant que la France comptait parmi les Européens les plus exposés au risque d'aggravation des addictions liées au confinement, avec 4 à 5 millions d'alcoolodépendants, 13 millions de fumeurs de tabac et 1,5 million de consommateurs de cannabis. Le confinement a-t-il constitué une épreuve supplémentaire plus dure à supporter encore pour les personnes dépendantes? C'est l'une des questions que l'on va vous poser. Docteur Philippe Battel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, addictologue, chef du pôle addiction de Charente. Également avec nous, avec Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes psychologue psychothérapeute au sein du service hospitalo-universitaire en addictologie du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et puis en fin d'émission, on va aborder la question des syndromes hyper-inflammatoires chez les enfants. Quel lien avec le Covid-19? Nous poserons la question au professeur Alexandre Belot, pédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants dans la ville de Lyon.
Priorité santé sur RFI.
Alors une émission au cours de laquelle on va entendre de nombreux témoignages et donc pour commenter ce travail d'observation des soignants, des praticiens, docteur Philippe Battel, qu'est-ce que vous avez constaté comme type de comportement, comme changement chez celles et ceux que vous suiviez avant la crise du Covid, des personnes en situation de dépendance, des personnes qui sont donc traitées, qu'est-ce que ça a changé pour elles ?
Alors, ce qui était très compliqué, et on les a accompagnés beaucoup au téléphone, avec des téléconsultations, des visioconsultations, c'était à la fois de garder ce lien, et puis d'essayer de les maintenir dans l'objectif qu'on avait initialement discuté ensemble. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur un objectif qui est une discussion entre le patient et nous-mêmes sur ce qu'il se sent capable de faire. Et maintenir une abstinence ou une réduction de la consommation d'alcool en période de stress est une vraie gageure. Et on a observé deux types de comportements. Des patients pour lesquels il y avait donc une survulnérabilité liée quand même beaucoup au stress et au confinement, et donc une augmentation de la consommation et des ruptures de projets d'abstinence. Et puis au contraire, des patients pour lesquels ils avaient beaucoup de difficultés sur d'autres addictions que l'alcool, en particulier sur les produits illicites, à se fournir le produit, soit parce qu'il n'était pas disponible, soit parce que quand vous avez une consommation qui est cryptée, cachée, quand vous cachez à votre conjoint que vous êtes coincé, c'est lui ou elle qui fait les courses, et bien évidemment, là, il y a eu une réduction de la consommation d'alcool, voire parfois des accidents dits de sevrage, hein, brutal. On a observé ces deux phénomènes qui sont opposés, en fait.
Alors là, on parle des personnes qui étaient déjà prises en charge ou qui avaient déjà une dépendance affirmée. Est-ce que parallèlement, vous avez enregistré ce qu'on pourrait appeler des nouveaux cas suite au confinement ?
Alors, on a vu, et tout le monde a vu au cours de cette période, et ça continue, qu'il y a des comportements qui sont mis en place, les apéros WhatsApp, qui n'étaient pas toujours d'ailleurs en fin de journée, mais qui étaient là pour un peu scander, rythmer un temps d'ennui et une réorganisation extrêmement compliquée du déroulement d'une journée. Anne Littoire nous en dira sans doute des choses beaucoup plus pertinentes et précises que ça, et ce qu'elle a pu observer. Mais donc il y a eu une augmentation de ces comportements d'alcoolisation. Et nous, on a de nouveaux patients. On a des appels qui commencent à venir, là, surtout avec le déconfinement, qui sont importants, de sujets qu'on n'avait jamais vus auparavant, et qui voient bien que leur consommation commence à glisser, hein, en particulier d'alcool et de tabac, pour des raisons d'ailleurs qui ont été un peu polémiques sur le tabac.
Sur le tabac, puisqu'il y avait eu des informations, des pseudo-informations sur un effet pseudo-protecteur de la nicotine, mais ce qui n'est pas pour autant de la consommation de cigarettes. Anne-Victoire Rousselet, est-ce que vous avez retrouvé des situations assez similaires à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire en même temps des personnes qui se sont mis à consommer plus, également des personnes qui étaient en situation, on va dire, peut-être pas de manque, mais de restriction de possibilité d'acquérir ce produit, et puis carrément ceux qui sont un petit peu tombés dedans.
Oui, il y a toutes les configurations avec les consommations toxiques et on le retrouve évidemment au décours de ce confinement et de ce déconfinement, puisque certains ont pris conscience en effet d'une majoration, d'un problème qu'ils n'avaient pas vu, qui était masqué peut-être par l'aspect social et qui là l'est beaucoup moins. En tout cas, quand on comprend l'addiction comme la gestion des affects et la gestion des émotions, on comprend bien pourquoi ce confinement a pu faire émerger des comportements de consommation, ou en tout cas des prises de conscience de consommation, de majoration, parce qu'on est privé d'un certain nombre de choses qui nous permettent de gérer les émotions avant. C'est-à-dire que le sport, par exemple, voir des amis, discuter, le cinéma, le musée, etc., ce sont des lieux aussi d'expression dont chacun a été privé. Et donc, il a fallu retrouver une stratégie. Et donc, on réduit le champ des stratégies pour gérer les émotions, le stress et les affects. Donc, on voit apparaître l'utilisation massive de certaines des stratégies, et notamment la consommation toxique qui, rappelons-le, apaise, détend, permet de couper avec ses ruminations, ses idées négatives. Donc, on va retrouver en effet toutes les configurations.
Et justement, chez ces personnes avec qui vous avez pu échanger après ou même pendant le confinement, Anne-Victoire Rousselet, c'était quoi, à leurs yeux, dans leur ressenti, ce qui était le plus déterminant? Est-ce que c'était justement combattre le stress ou l'anxiété, ou un petit peu, si on peut dire, s'occuper, faire quelque chose parce qu'on est coincé à la maison, parce qu'on n'a pas de sortie, parce qu'on est isolé?
Il y avait les deux, finalement. Il y avait s'extraire d'une situation désagréable, l'ennui étant peut-être perçu comme une émotion désagréable, la frustration aussi. Donc, finalement, ils ont eu recours à ces stratégies. Alors, certains ont fait preuve de beaucoup de ressources qu'ils n'imaginaient pas. Donc, il y a aussi des situations très positives, moi, j'ai trouvé, parce que confronté à soi-même, privé aussi de certains facteurs de stress, parce qu'il faut bien le dire, la société nous en donne aussi. Certains ont retrouvé des ressources et ont eu un parcours vraiment sympathique et vraiment boosté par ce confinement. D'autres, en revanche, ça a été vécu comme une frustration supplémentaire, des émotions négatives, une tristesse, un isolement, et ont augmenté leur consommation. L'objectif était, à la rigueur pour nous, de le stabiliser, de retrouver des activités qui nous font du bien dans un espace qui est très réduit.
Alors bien sûr, dans cette émission de Priorité Santé, on parle d'une substance comme l'alcool d'une manière très différente de ce qu'on a pu entendre ou voir sur les réseaux sociaux. Il y avait même des questions, quelle est votre boisson de confinement? On avait l'impression d'une sorte de véritable obsession de l'apéro, docteur Philippe Battel. Comment est-ce que ça vous a fait réagir?
Oui, moi, ça m'a fait, bien évidemment, réagir avec un certain sourire, et peut-être, parce que je suis peut-être paranoïaque, l'idée que derrière ça, il y avait le lobby alcoolier qui y allait plein.
Carrément.
D'abord,
carrément.
Oui, parce que vous voyez, il y a une espèce de bonhomie autour de ça, qui est d'ailleurs vraiment la marque de fabrique en France, hein, c'est-à-dire que il y a sur ce sujet-là, sur le sujet des dommages de l'alcool, il n'y a pas un pays au monde qui regarde ça avec une certaine distance. À la fin de cette épidémie, nous aurons peut-être 30 000 morts liées à ce virus pour l'année 2020 en France. Rappelons que chaque année, depuis des années, c'est entre 45 et 50 000 morts qui meurent de la consommation d'alcool. Et que, du coup, là, on les regarde de manière complètement différente et complètement léger. Moi, j'étais sidéré de voir, aux 20 heures, des artistes, une ancienne ministre de la Santé, Madame Bachelot, dire, moi, la première chose que je vais faire quand je serai déconfiné, c'est j'irai m'envoyer des tintos avec des copains. Et je regarde ça, je ne dis pas que ça me choque, mais ça montre à quel point, finalement, l'alcool est survalorisé dans notre pays. Et regardez, au moment où tout le monde s'intéresse à la question de la santé publique, au moment où tout le monde s'intéresse à savoir comment on peut éviter la mort, c'est la première cause de mort évitable, la consommation d'alcool. Mais là, d'une manière, vraiment avec le sceau très français de la valeur alcool autour de la convivialité, autour
du lien social. Cocorico,
on est du lien social et on est les meilleurs producteurs au monde, ce dont je ne doute absolument pas, mais aussi on est parmi les consommateurs qui payent le plus lourd tribut avec une mortalité liée à la consommation d'alcool, une des plus élevées au monde. Et ça, pour l'instant, il y a quand même une indifférence politique autour de ça qui, moi, continue de me sidérer.
Et vous dites ça, Philippe Battel, alors que vous travaillez en Charente, hein, le pays du cognac. Alors vous restez tous les deux en ligne. Tout de suite, un témoignage dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Ce premier témoignage avec vous, on vous retrouve, Georges, bonjour.
Oui, bonjour.
Ben, enchanté de vous parler, vous êtes commerçant, vous avez une petite soixantaine. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que votre consommation d'alcool a changé pendant le confinement ?
Oh oui, absolument. Elle a explosé, je vais dire.
Et justement, avant, c'était comment ? Et pendant, c'était comment ?
Alors, avant, l'addiction était déjà là, mais bon, c'était... deux pastis le midi, deux le soir, une demi-bouteille de vin à chaque repas. Et pendant le confinement, assez rapidement, je suis passé à 3, 4, 5, 6, voire même je ne comptais plus au niveau du pastis. Et puis, c'est la bouteille de rouge à chaque repas.
Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une personne alcoolo-dépendante ? Est-ce que vous êtes prise en charge pour cela ?
Alors, non, je ne suis pas prise en charge pour l'alcool. Je suis suivi médicalement pour d'autres conséquences physiques. Mais oui, je me sens alcoolique dépendant.
Alcoolique dépendant. Vous êtes prise en charge pour la santé de votre foie ?
Oui, tout à fait.
Alors, en hépatologie, vous êtes d'accord pour y aller, mais pas en service d'addictologie. Est-ce que vous avez réfléchi à savoir pourquoi, finalement, vous voulez bien traiter, on va dire, les conséquences de l'alcool, mais pas l'origine du problème ?
En toute honnêteté, non, je n'ai pas réfléchi à la chose. En fait, il y a quelques années, j'ai consulté pendant un addictologue, et puis le résultat n'a pas été probant, donc ça m'a un peu découragé.
Alors, pendant le confinement, quand vous buviez, vous avez dit ça a augmenté. C'était dans quelles circonstances ? C'était n'importe quand dans la journée ou vous aviez quand même des horaires, des rendez-vous ?
Des horaires, je veux dire, à 9h du matin, je n'avais pas d'envie particulière. D'accord. Par contre, quand j'étais en activité, je rentrais chez moi à 12h30, je prenais mon pastis. Assez rapidement, j'ai commencé à 11h, en mangeant toujours à la même heure. Idem le soir. Après, dans le reste de la journée... Non, pas d'envie particulière. C'est surtout au moment de l'apéritif et du repas.
Et vous êtes seul, vous étiez seul pendant ce confinement ? Parce que c'est quelque chose qui peut compter aussi. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut juger, qui peut regarder ce que vous êtes en train de faire.
Absolument. Je tout seul. Et puis, quand je dis dans la journée, j'ai quelques occupations. Et puis, au moment des repas, se retrouver tout seul, personne à qui parler, pas de dialogue. On glisse doucement. J'avoue que j'avais pas conscience au début de glisser. Après, c'est arrivé. Et puis, ben, confinement aidant, pas de volonté.
Vous étiez déjà sur un petit terrain glissant et ça s'est accéléré, en fait.
Tout à fait.
Sur même un terrain glissant assez prononcé, vu que vous avez une pathologie du foie. Est-ce que c'est difficile d'en parler? Est-ce que c'est pénible d'en parler de cette boisson, de cette incapacité à finalement se traiter pour cela? Est-ce que c'est pénible?
Ça dépend avec qui.
D'accord.
Il y a je vais prendre un exemple. Avec ma fille, j'en parle tout à fait librement. Mmh. Je ne suis pas dans le déni. Après, il y a des personnes, j'estime que bon, c'est ma vie privée, elles n'ont pas besoin de savoir ça. Tous mes proches, j'en parle librement.
Mmh. Et depuis la fin du confinement, vous en êtes où? Est-ce que vous avez essayé de réduire la cadence?
Oui, j'ai diminué. J'ai totalement aboli le vin. Donc, j'en ai plus à la maison, j'en achète plus. Mmh. Et je me suis remis à 2 pastis le midi, 2 pastis le soir.
Alors, on a un addictologue en ligne avec nous, c'est le docteur Philippe Battel. Peut-être, docteur Battel, vous avez une question à poser à Georges?
Oui, avant de lui poser une question, juste lui donner une information. Les maladies alcooliques du foie, le foie qui est malade de la consommation d'alcool, ils ont un pronostic qui est tout à fait connu et qui est directement lié au nombre de verres qui vont passer par votre gorge dans les 5 ans qui viennent. Et le foie est plutôt un organe sympa. C'est-à-dire que quand vous le soulagez et quand vous lui donnez la moitié de la consommation d'alcool que vous lui aviez imposée, il va se régénérer. Donc, la question que vous posiez était très pertinente. Pourquoi pas s'attaquer à la racine du problème? Moi, je pense que, contrairement à ce que vous pensez, vous avez une détermination à changer. La preuve, c'est que vous avez déjà mis en place un changement. Faites-vous aider par un addictologue qui va vous aider à mettre en place un objectif que vous sentez réalisable et va pouvoir, éventuellement, vous prescrivant des médicaments ou en participant à un certain nombre de sessions, par exemple de thérapie cognitive et comportementale, qui sont des sessions courtes, changer votre comportement et asseoir le changement que vous avez déjà mis en place.
Docteur Philippe Battel, quand on a comme ça justement des réticences à aller vers l'addictologie, alors là je me retourne vers Anne-Victoire Rousselet, est-ce qu'on ne peut pas commencer, on va dire, un petit peu plus en douceur, aller consulter un psychothérapeute, un psychologue, et après penser à cette deuxième phase?
Si, tout à fait. On parle aussi des approches motivationnelles, c'est-à-dire on ne force pas quelqu'un à arrêter, on l'aide, on le guide dans ses questionnements, pourquoi j'aurais intérêt, quels sont les avantages, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne, etc. Toute une discussion et un temps d'échange autour de ça qui ne prend pas forcément très longtemps, mais qui est nécessaire pour être au clair sur les objectifs qu'on va se fixer. Philippe Battel parlait d'objectifs réalisables, réalistes. Bien sûr, l'idée, c'est d'être dans, on parle de plus en plus, et on fait de plus en plus de la réduction des risques. Alors même si on préconise plutôt l'abstinence sur certaines toxiques, sur certaines substances, on va parler de réduction des risques, et là, tout à fait, ça peut se présenter pour Georges. Donc, il y a une question déjà d'évaluer un peu les avantages que je vais avoir et comment je vais m'y prendre, parce qu'il y a aussi la peur de changer parfois son comportement et ses habitudes, ce qui est normal, parce qu'on a l'habitude, tout simplement. Voilà. Donc on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne.
D'autant plus quand on est dans une situation difficile, des fois on se dit « Ok, on veut me retirer ce qui me soulage, mais qu'est-ce que je vais avoir, moi, en compensation ?»
C'est ça.
Exactement. Donc il faut essayer déjà de comprendre ce que ça remplace. Vous l'avez un peu évoqué, parce que spontanément, avec le déconfinement, vous avez réduit, parce que sans doute la vie sociale a repris. Donc on a un élément comme ça qui nous dit bah peut-être en effet que il y a une question un petit peu sociale et affective qui est en jeu avec cette consommation d'alcool et qu'on pourrait peut-être retrouver autrement. Donc vous voyez, c'est des ajustements qu'on va faire en comprenant, en identifiant, en observant ce qui se passe au décours de la consommation, plutôt comme un observateur, un expérimentateur de ce qu'on vit. Plutôt que comme quelqu'un qui juge, hein, c'est absolument pas le cas. Mais on a plein de petites techniques, comme si vous voulez définir un plafond de consommation, je ne boirai pas plus que, définir aussi un plancher, une heure plancher, à quelle heure je vais commencer, pas plus tôt que, et donc en se mettant des cadres comme ça, progressivement, on arrive à avancer et en réintégrant des choses qui nous font du bien, parce qu'on ne consomme pas pour rien.
Georges, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez vu, vous, par rapport aux consultations en addictologie, craint que du jour au lendemain, on vous interdise de boire, tout simplement?
Oui, peut-être qu'il y avait quelque chose dans ce sens.
Mmh. Et quand vous entendez les praticiens, médecins, aller vers une approche beaucoup plus d'écoute, de partage, d'interaction, est-ce que ça change votre point de vue sur la prise en charge?
Oui, d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure quelque chose que j'ai retenu et qui m'attire bien, c'est le psychothérapeute.
Mmh. Ça veut dire que, au niveau même des services d'addictologie de votre région, docteur Philippe Battel, vous me dites si je me trompe, aller voir des praticiens spécialisés dans ce type de prise en charge pour une première approche, c'est possible, docteur Battel?
Bien sûr, il y a dans chaque département ce qu'on appelle des XAPA, qui sont des centres de soins et de prévention et en addictologie, et dans lequel vous êtes accueilli par une équipe multidisciplinaire. Et puis, on ouvre avec vous, une fois qu'on a fait une évaluation tranquille de la situation, on déroule un menu. Et dans le menu, on va vous faire plusieurs propositions. Et dans ces propositions, il y a une approche psychothérapeutique. Parfois, quand on est dans un XAPA riche, il y a plusieurs formes de psychothérapie, riche en diversité, j'entends.
Et en moyens, oui.
Voilà, plusieurs moyens. Et on discute avec vous en vous explicitant. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre un soin et le patient. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'idée de on teste, on regarde. On fait par exemple des séances. On fait des séances de tests de gestion des émotions, de groupe entourage. Voilà, c'est-à-dire qu'on va demander au patient ou à son entourage d'aller regarder ce qui se passe et de nous donner un avis et un feedback sur la façon dont ils ont vécu ce qu'on leur a proposé. Et souvent, ils trouvent leurs moyens. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je deviens un très vieux addictologue et que plus je vieillis, plus je me rends compte que je ne sais rien. C'est-à-dire que je ne sais surtout pas quel est le traitement qui va correspondre à chaque patient. Mmh. Je ne devrais pas vous dire ça, puisque...
Mais il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle.
D'experts. Il n'y a pas de modèle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir à chaque fois cette idée d'une table rase sur laquelle on explore et le patient trouve, en règle générale, beaucoup plus pertinemment que le soignant, sa voie de rétablissement.
Donc le parcours de Georges sera le parcours de Georges. Merci infiniment en tout cas d'avoir partagé avec nous, Georges, votre vécu de ces dernières semaines. Et on vous dit bon courage, hein, bonne continuation. Donnez-nous des nouvelles à l'occasion, ça nous fera plaisir. Et on va maintenant avoir deux autres témoignages, là, des messages enregistrés, donc plus difficiles bien sûr pour l'interaction. On va commencer avec un auditeur du Mali, de Bamako. C'est Ouzou, on l'écoute.
Bonjour Caroline. Je m'appelle Ousou, j'ai 32 ans, je suis dépendant du tramadol il y a de cela 5 ans maintenant. J'ai commencé à apprendre avec les amis en 2005. Je travaillais dans un site d'orpaillage traditionnel vers Kangaba, donc je suis allé là-bas pour chercher de l'or. Là-bas, tout le monde prenait, donc... Toutes mes amis qui travaillent là-bas prenaient. Donc moi aussi, je suis devenu un entrepreneur comme eux. Maintenant, actuellement, je prends un comprimé de 225 mg. Je le divise en deux. Je prends un le matin, un le soir. En tout, dans 24 heures, je prends 225 mg par jour. Donc j'ai eu peur avec les sevrages. Et d'arrêter de prendre du tramadol parce que j'ai trop peur du sevrage et je n'ai jamais tenté de laisser. Donc maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est possible d'arrêter de prendre du tramadol sans faire du sevrage? Est-ce possible? Donc c'est bien sûr ma question.
Dépendance au tramadol. Hein. On entend cet auditeur Ouzou qui a peur du sevrage. Tramadol, cette antidouleur qui fait d'énormes ravages, notamment en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Philippe Battel? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par sevrage?
Oui, et moi j'ai le sentiment qu'il entend par sevrage une hospitalisation. Parce que cette demande, elle ne peut pas être ambivalente au point de dire je voudrais arrêter le tramadol, mais je ne veux pas un sevrage. Puisque le sevrage, la définition d'un sevrage, c'est le fait d'arrêter de prendre un produit.
Donc, je pense qu'il imagine qu'on arrête du jour au lendemain.
Alors, on peut arrêter du jour au lendemain 225 mg de tramadol. Techniquement, sa question est très, très technique. La réponse est oui. Et ce qu'il attend, il le connaît. Ce sont des signes de sevrage. Des opiacés que sont le fait d'avoir des douleurs un peu diffuses, un syndrome pseudo-grippal, le nez qui coule, des larmoiements, une diarrhée et de vraiment pas être bien pendant combien de temps? Pendant entre 24 et 72 heures.
Ah, c'est pas très très long. C'est pas très très long.
C'est pas très très long.
C'est un syndrome grippal qui arrive d'un coup quand on arrête la consommation.
De manière un peu progressive et crescendo. Or, tous ces symptômes-là sont accessibles à des traitements symptomatiques avec du paracétamol à partir du moment où il n'est pas codéiné, à partir du moment où on ne remet pas un jeton dans la machine, avec des antispasmodiques, avec éventuellement un petit anxiolytique, on arrive à passer ces 3-4 jours qui sont différents. Et puis, si le patient est très accroché au tramadol, je ne sais pas si c'est disponible au Mali, mais il y a des médicaments de substitution qui permettent de donner à la fois un traitement opiacé pour éviter le syndrome de sevrage et maintenir le patient dans un statut beaucoup plus confortable. Mais vraiment, on peut le rassurer sur le fait que accompagner avec un peu de traitement est tout à fait possible.
Ce qu'on peut dire à Ouzou aussi, c'est qu'il vaut mieux qu'il aille consulter un médecin pour engager cet arrêt de la consommation.
Oui, d'autant qu'on le sent bien déterminé. Il décrit très très bien non seulement comment est arrivée cette dépendance au tramadol, qui on rappelle quand même, hein, c'est une épouvante. Aux États-Unis, il y a eu une crise autour des opiacés qui a entraîné des milliers de morts. Et on voit aussi qu'en Afrique, ils sont largement touchés. Mais c'est tout à fait possible avec les doses qu'il prend d'arriver à faire un sevrage. Même progressif sur quelques jours, il pourrait diminuer le traitement sur 2 ou 3 jours pour pouvoir atténuer l'intensité des symptômes de sevrage.
Autre question, témoignage, cette fois on part pour la Belgique, retrouver une auditrice, Marion, elle nous confie les problèmes de son compagnon, on l'écoute.
Bonjour, je suis Marion, je viens de Belgique et mon compagnon est alcoolique. Alors au début de notre relation, quand il venait chez moi, c'était avec une bière. Et puis petit à petit, je suis venu de plus en plus chez lui. Et là, j'ai bien vu qu'il y avait un souci. Je lui ai dit, écoute, moi je veux bien continuer avec toi, mais tu te soignes. Donc on a fait de l'hypnose, qui n'a pas marché. Ensuite, il a vu un psy, mais que de temps en temps, parce que c'est payant. Ils n'ont remboursé. Ensuite, il a pris rendez-vous chez un addictologue au mois de février. Et donc, je suis assez fier de lui parce que voilà, il l'a fait. Et l'addictologue a continué pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai dû partir quelques jours pour me reposer parce que j'ai bien vu que, en fait, moi, je ne peux pas tout faire. Donc, il m'a écouté. On s'écoute mutuellement. Et on s'élève mutuellement. Je pense que par amour, il faut rester quand la relation n'est pas toxique. Voilà. Quand elle ne blesse pas trop l'autre. Et il y a un moment, il faut prendre sur soi parce qu'on ne peut pas tout faire. Quand on aime la personne en face, on fait tout pour qu'elle s'en sorte. J'en ai peut-être fait trop, mais maintenant je le sais. Je ralentis, je lâche prise, mais sans le lâcher. Je vous souhaite une belle journée.
Merci à Marion pour son témoignage. Son compagnon qui est donc pris en charge, on perçoit bien, Anne-Victoire Rousselet, toute la difficulté, bien sûr pour la personne en situation de dépendance, mais aussi pour l'entourage.
Oui, bien sûr, c'est très compliqué parce que le comportement aussi de quelqu'un qui consomme va être fluctuant et fonction aussi de ses émotions, comme on le disait. Alors, on ne dit pas tout, on ment souvent sur sa consommation parce qu'on n'a pas envie, on a honte, on ne veut pas blesser l'autre. Donc rapidement, en fait, dans l'interaction, dans la relation, dans le couple, mais dans la famille en général et même avec les amis, La consommation vient s'immiscer et c'est très compliqué de faire ce que fait Marion, de savoir quand est-ce que on aide l'autre et quand est-ce qu'on est toxique pour l'autre et quand est-ce que on prend une place qui est trop importante ou qui devrait pas être celle-là. Donc c'est un vraiment un jeu d'équilibriste. Il faut vraiment en effet avoir des sentiments très forts pour son compagnon.
Docteur Philippe Battel, j'ai une question qui peut paraître un petit peu technique, mais est-ce que la nature de l'alcool, le degré de l'alcool, ça change quelque chose dans la problématique quand on s'alcoolise avec de la bière plutôt qu'avec, on va dire, du whisky ?
Alors, ça c'est ce que nous font croire en particulier, en permanence, les alcooliers. Ce qu'on a parfaitement démontré, c'est que sur les conséquences, notamment et surtout physiques de l'alcool, et on se rappelle que il n'y a pas simplement la sphère digestive, il y a 6 cancers qui sont liés à la consommation d'alcool, y compris le cancer du sein. Il y a aussi des troubles neurologiques et surtout des troubles cardiovasculaires. Donc il n'y a pas souvent quand on dit des alcools forts, on se dit « Ah là là, boire un alcool fort, c'est plus dangereux que boire un alcool soi-disant faible. » Ce qui compte, c'est le nombre de grammes que vous allez ingérer. En revanche, le comportement d'alcoolisation est très différent. C'est-à-dire que quand on va boire du vin, de la bière et des produits qui sont faiblement titrés, on va avoir des modifications comportementales qui ne sont pas du tout les mêmes que quand on s'envoie une demi-bouteille de whisky. Pourquoi ? Parce que l'alcoolémie va monter beaucoup plus rapidement et que tous les troubles comportementaux vont être bien évidemment
différents
au premier plan. Ouais.
Oui, autre témoignage tout de suite, un autre parcours. On va vous rejoindre tout de suite. Clara, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que je vous présente, Clara, comme abstinente ?
Oui, là, ça fait 6 mois que je suis abstinente, depuis novembre 2019.
6 mois d'abstinence, ça change quoi ?
Ah bah, ça change la vie, hein, totalement. On se sent forcément beaucoup mieux, on dort beaucoup mieux, on est beaucoup moins dépressif. Il faut savoir que moi, l'alcool, c'était très, très dépressiogène. Et donc, j'étais tout le temps triste, tout le temps en train de pleurer, etc. Et là, c'est une nouvelle vie. Forcément, on fait plus de choses, on a beaucoup plus d'énergie. Donc, ça change totalement la vie, oui.
Ça s'entend, ça fait plaisir à entendre. Vous avez une voix très jeune, vous avez 25 ans. Ça remonte à quand, cette consommation régulière et excessive d'alcool ?
Alors, j'ai commencé à consommer en novembre 2015, quand j'ai commencé à habiter seule sur Paris pour mes études. Faut savoir que moi, je fais de l'anxiété sociale. J'ai commencé à boire pour vaincre cette anxiété sociale. Quand j'allais à une soirée ou j'avais un rendez-vous, je buvais toujours un petit peu avant. Et puis, très vite, ça a augmenté. Hein. Je passais d'un verre occasionnel à un verre tous les soirs. Et puis, petit à petit, je suis montée à une bouteille, puis 2 bouteilles par jour. Et dès le matin, donc, ouais, ça monte très vite.
Et cette solitude, c'est quelque chose qui vous pesait ?
Oui, bien sûr, l'alcool isole beaucoup, j'en parlais à personne. Et oui, je buvais toute seule chez moi, et donc oui, ça isole beaucoup. Moi, je me sentais très mal, très seule. Et donc voilà, j'ai bien fait de commencer à en parler et à consulter. Donc ça, c'était en 2018. Mais j'ai quand même vécu 3 ans sans en parler à personne, parce que j'avais honte, parce que je ne savais pas comment aborder les choses, parce que l'alcool, c'est très mal vu, surtout quand on est une jeune femme. Donc, voilà.
Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ? Est-ce que vous avez identifié un moment particulier où, finalement, c'était un parcours, une suite d'événements ?
Non, c'est toute une suite d'événements. Enfin, le jour où j'ai commencé, où j'ai décidé de consulter, c'est parce que je pense que j'en pouvais plus, que ce soit physiquement ou psychologiquement. J'ai été à bout parce que bon, faut savoir que l'alcool, je me nourrissais d'alcool en fait, et je mangeais presque plus à côté, donc j'étais très mal physiquement et psychologiquement. Et je pense qu'il y a un moment où je pouvais plus, j'avais plus d'autre choix que de consulter, parce que je me voyais plus vivre comme ça en fait.
Et au cours du confinement, est-ce que Clara, vous êtes sentie fragilisée ? Comment vous avez fait pour votre suivi ?
Le suivi, il a continué en téléconsultation. Donc, mon psychiatre a pris le relais, ma psychologue aussi, mon infirmière. Donc, il faut savoir que le centre où je suis suivie, ils sont toujours disponibles par téléphone. Donc, ça m'a énormément aidée. Après, j'ai pas eu vraiment de problème vis-à-vis de l'alcool pendant le confinement. J'y ai pas pensé du tout. Parce que quand le confinement a commencé, j'avais déjà 3-4 mois d'abstinence. Donc, j'étais déjà dans une dynamique d'arrêt de l'alcool. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai pas eu de problème.
Mais le et aujourd'hui, comment vous vous sentez ? C'est quoi votre état d'esprit ?
Je me sens beaucoup mieux. Là, je vais démarrer un service civique. J'ai des projets. J'ai, ouais, j'arrive à me projeter dans l'avenir. Donc, l'arrêt de l'alcool, ça a été ma meilleure décision, on va dire.
Tout à l'heure, on a entendu Georges qui avait un petit peu des réticences à aller consulter. Si vous aviez un message à lui transmettre, vous lui diriez quoi ?
Moi, je dirais que, je pense, ça c'est mon propre avis, mais je pense pas
Bien
qu'on
sûr.
Puisse s'en sortir seul. L'alcool, c'est... Il y a toute une problématique derrière l'alcool. Pourquoi on a commencé à consommer, pourquoi on continue de consommer, il y a toujours une histoire derrière. Moi, par exemple, c'est l'anxiété sociale, on a tous une histoire différente. Et pour justement aller de l'avant, il faut pouvoir justement consulter, en parler, pour comprendre pourquoi on a commencé à consommer, pourquoi on continue, etc. Donc, moi, je pense que c'est très important de consommer. Et puis,
De consulter.
Désolée. Et on se sent moins seul aussi, en fait, dès qu'on consulte. Parce que, comme je disais, ouais. L'alcool isole beaucoup. Et là, on se sent entouré, on se sent écouté. Et je pense que c'est très important de consulter. Après, c'est mon avis. Hein,
mais votre avis compte énormément, puisqu'on vous a donné la parole. On vous remercie beaucoup et bonne chance pour vos nouveaux projets. En tout cas, ce qu'on entend, Anne-Victoire Rousselet, c'est que le lien thérapeutique pour Clara, mais pour énormément de personnes justement qui sont prises en charge, ce lien, il est essentiel.
Oui, il est essentiel. Il est essentiel et il est inhérent aussi à la problématique, hein. Qui est une problématique aussi du lien et de l'affect et des relations. Donc, ça se travaille aussi au sein de la relation, hein, cette question du lien et de la consommation d'alcool. Et puis, Clara le disait très bien, on a honte, on n'est pas à l'aise. Donc, on est plus à l'aise de parler à quelqu'un d'étranger dans ce métier plutôt que d'aller échanger avec d'autres, surtout si on craint le jugement de l'autre. Donc, ce lien est très important. Alors, Clara a été lancée sur cette liste, mais pour d'autres, même si on reste toujours vigilant, hein, mais pour d'autres qui étaient dans le début de leur sevrage ou dans une stabilisation de leur consommation, c'était encore plus important d'avoir ce lien, cette continuité dans mes objectifs de vie et pas une interruption de tout ce que j'avais initié avant ce confinement et avant ce virus.
Alors, on a pu voir des visioconsultations se multiplier, des plateformes d'écoute, mais Anne-Victoire Rousselet, la thérapie, le face-à-face, c'est toujours essentiel.
Bien sûr, c'est toujours essentiel, bien que, et en dépit de mon scepticisme, l'outil a pu se montrer vraiment utile, c'est-à-dire que mieux vaut maintenir un lien...
La continuité.
Ne serait-ce que par la voix, que pas du tout. Et moi, j'ai observé qu'on travaillait d'autres choses. On parle de consommation. Moi, j'ai vu des patients en visio allumer une cigarette au moment où on évoquait un sujet. Donc là où c'est difficile de dire que c'est angoissant, peut-être en entretien, en face à face, là, c'est visible parce qu'ils s'autorisent à fumer chez eux, ce qui ne serait sûrement pas dans mon bureau. Mais là, on peut dire tout de suite, oui, OK, il y a une émotion qui émerge. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, c'est aussi un outil intéressant pour ça. On est dans l'immédiateté.
Docteur Philippe Battel, vous aussi, vous avez visio-soigné pendant le confinement ?
Oui, on a été très étonnés d'abord de non seulement de l'acceptation, mais la façon dont les patients sont appropriés cet outil, ont respecté les règles aussi, en particulier ils étaient beaucoup plus assidus et beaucoup plus ponctuels au rendez-vous téléphonique ou de visioconférence que lorsqu'ils le sont de manière physique. Il y a aussi un intérêt majeur en addictologie, c'est qu'on ne fait pas prendre de risques, par exemple, à des patients qui ont bien du mal à consommer peu d'alcool ou pas du tout et qui, dans notre exercice très rural de ce département de la Charente, font parfois beaucoup, beaucoup de kilomètres et prennent beaucoup de risques pour venir consulter. Non. Et puis, l'aide à l'entourage, j'y reviens, et le témoignage de Marion était absolument remarquable. Nous, on a des groupes qui s'intéressent d'entourages qui travaillent cette question de la codépendance et on s'est rendu compte que 24 heures sur 24 coincés avec un patient addict, la tolérance de l'entourage et tous les mécanismes de codépendance, de je vais le sauver, je vais essayer l'empêcher de boire, se sont exacerbés et que là, vraiment, on a pu aider cet entourage autrement que dans les groupes présentiels qu'on fait d'habitude.
Alors, on a souligné bien sûr le caractère inédit de cette crise. Hein. On n'avait jamais vu ça, une forme de sidération. Mais ça n'empêche pas, Anne-Victoire Rousselet, qu'on a pu, que vous avez pu, vous soignant, bien appliquer des choses que vous connaissiez déjà, des stratégies éprouvées. Comment est-ce qu'on a un petit peu adapté sa façon de pratiquer, dans votre cas, la psychologie ?
Alors, l'important, on le sait, la communication passe à 80% par du non-verbal. Donc, j'ai essayé de favoriser quand même le visio quand c'était possible, mais sans faire intrusion dans l'espace des uns et des autres. Moi, j'ai un certain nombre, avec mes techniques de comportementales et cognitives, on a des techniques et des exercices qu'on propose. Donc, on a juste adapter, ajuster, par exemple relever ses émotions, voilà, vous vous retrouvez sur votre canapé, vous n'avez rien à faire, il y avait un coup de fil qui s'annule, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ben, je me sens abandonnée, je me sens triste, angoissée, je me dis qu'un petit verre, un petit joint me fera du bien, que de toute façon j'ai rien à faire cet après-midi, que ça compte pas pour les autres, etc. Donc des pensées plutôt négatives, et comportement, ben, je vais vers mon frigo, ou vers mes cigarettes, etc. Et donc, en donnant ces outils-là, on sait qu'on va pouvoir les utiliser un peu n'importe où. Et c'est l'objectif en thérapie comportementale et cognitive. C'est que la personne soit la plus autonome possible dans tous les contextes et qu'elle puisse s'adapter, dans la majeure partie des contextes. Donc là, finalement, on a utilisé les mêmes outils, mais on a été davantage confronté à des choses moins relationnelles, plus individuelles, des angoisses plus personnelles, comme celle que je viens d'évoquer, celle de l'abandon. Voyez, donc ces confrontations à soi-même ont donné lieu à des réponses différentes plutôt que des outils différents, en tout cas concernant mes techniques.
Changer certains modes d'approche, m'excuse, on arrive à la conclusion. Oui. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Docteur Philippe Battel, juste une petite question en forme de sourire. Les groupes de parole, ça marche aussi quand on est masqué ?
Oui, ça marche aussi quand on est masqué. C'est dommage parce que on se rend compte à quel point on est handicapé en clinique de ne pas pas avoir l'émotion en direct du patient qu'on est en face de.
Et on va le voir dans la rue, hein, quand ça manque les sourires, heureusement qu'on a le rire pour faire transmettre justement cette bonne humeur. Merci, hein, merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé par téléphone. Et on remercie beaucoup nos témoins en direct parce que les écouter, ça nous en a aussi beaucoup appris. Merci Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute à Sainte-Anne, et à vous, docteur Philippe Battel, addictologue, chef du pôle addiction de Charente.
Priorité Santé sur RFI.
Informer, comprendre et aussi rassurer. On va maintenant évoquer les cas d'hyperinflammation chez des enfants dans le contexte d'épidémie de Covid-19. Ça a fait la une des journaux la semaine dernière, notamment en France. Et on vous rejoint, professeur Alexandre Belot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie, responsable du Centre de référence des maladies rares, des rhumatismes inflammatoires et des maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant. C'est long, mais on comprend bien. Infectiologie, maladies inflammatoires, pédiatrie, trois spécialités mises à contribution pour prendre en charge ces enfants, pour comprendre ce qui se passe chez ces enfants concernés par un syndrome évocateur de la maladie de Kawasaki. On va commencer par la description, professeur Belot. Quels sont ces symptômes ?
Alors, je pense qu'en introduction, et c'est très important pour les auditeurs, c'est de rappeler que la très grande majorité des cas de Covid de l'enfant, ce sont des formes asymptomatiques ou possymptomatiques, et on le sait aussi maintenant, les enfants sont très peu contagieux. Alors, La forme qui est décrite actuellement, c'est une forme exceptionnelle, grave effectivement, qui associe une fièvre élevée, une fatigue importante et puis une éruption qui peut ressembler un peu à la scarlatine ou la rougeole. On peut avoir des gonflements au niveau des extrémités, les yeux rouges, des gros ganglions dans le cou et même des malaises parce qu'on peut avoir une pression artérielle un petit peu basse.
Donc ce sont des manifestations que l'on voit vraiment. Il ne faut pas s'inquiéter si on a un enfant qui a un petit problème comme ça, ça n'a rien à voir.
Absolument, le nez qui coule ou juste de la fièvre, ça ne correspond pas à cette entité. Les enfants possèdent toute cette gamme de symptômes que je viens de décrire, ils sont extrêmement fatigués et je pense qu'on sait bien les reconnaître et devant ces symptômes, il faut consulter.
Et bien sûr, encore une fois, on dit ça parce qu'il n'est pas question d'inquiéter ou de créer d'angoisse chez les parents. Comment est-ce qu'on a pu établir le lien entre le syndrome inflammatoire et le Covid-19? Et d'ailleurs, est-ce que ce lien est établi?
Alors, il y a deux stratégies pour déterminer le lien. Le premier, c'est de regarder le lien microbiologique. Et ça, les premiers cas décrits ont tous rapporté une positivité, soit de la PCR ou de la sérologie, qui sont les deux techniques pour faire le diagnostic microbiologique. Et puis, un autre élément, c'est un élément épidémiologique. Et nous avons mis en place une veille sanitaire avec Santé publique France et les sociétés savantes pour essayer de déterminer le nombre de cas par semaine. Et on a pu ainsi déterminer deux points majeurs qui nous lient cette manifestation au Covid-19, c'est qu'il y a eu un pic 4 semaines après la vague qui a traversé le pays pour ces patients, avec jusqu'à 30 cas par semaine en semaine 17. Et puis, la zone géographique impliquée correspond à celle où il y avait le plus de cas de Covid. Donc, okay, dans l'espace et dans le temps, un lien qui est démontré.
Alors, les cas regroupés dans les régions où l'épidémie était la plus présente, combien de cas au total ont été recensés, professeur?
Hier, nous avions 152 cas rapportés. Et il faut reconnaître que sur cette semaine, il y a un cas, la semaine passée, quatre cas. Donc on est en fin de cette vague qui a culminé la semaine du 20 avril, qui est actuellement en nette diminution.
Est-ce que vous avez pointé des informations communes, des liens entre les enfants qui ont développé ces inflammations, certaines caractéristiques?
Alors, pas vraiment. On sait que ça ne survient pas chez des enfants qui ont une maladie chronique sous-jacente. Les enfants n'avaient pas de maladie particulière. Il y a peut-être une surreprésentation chez les populations d'origine africaine, mais nous n'avons pas ces données en France. Ce sont des données suggérées par les collègues anglais.
On n'a pas ces données parce qu'il n'y a pas, bien sûr, d'enregistrement des patients en fonction de leur origine ethnique. Mais est-ce qu'on a des éléments d'explication, justement, peut-être d'ordre génétique?
Alors, il y a deux grandes hypothèses au niveau de la recherche pour expliquer ces réponses inflammatoires, encore une fois exceptionnelles. C'est qu'il peut s'agir en effet de facteurs génétiques qui vont conditionner cette réponse immunitaire un peu excessive et qui aboutit à ces tableaux que l'on observe. Donc, c'est l'étude de l'hôte et peut-être des facteurs génétiques. Et de l'autre côté, c'est de regarder ou vérifier que ce virus est le même virus que celui qui circule, qu'il n'a pas acquis de mutation qui pourrait expliquer ce tableau un peu spécifique.
Mais le message principal, c'est de rassurer les parents en disant que le nombre de cas est vraiment réduit, manifestation exceptionnelle, et en plus, actuellement, ce qu'on observe, c'est une réduction du nombre.
Absolument. Les deux éléments majeurs sur lesquels il faut insister, c'est que ce sont des manifestations exceptionnelles par rapport aux millions d'enfants qui ont été exposés. Nous parlons de dizaines d'enfants malades qui sont tous maintenant sortis de réanimation avec une évolution favorable sous traitement et actuellement une très forte diminution du nombre de cas.
Merci beaucoup, le message est bien passé. Professeur Alexandre Bellaud, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital Femme, Mère, Enfant de Lyon. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussama Kéofili, la scène, Juliette Brault, Didier Bleu et Raphaël Azizi. Demain, pour présenter Priorité Santé, un homme, Igor Strauss, au programme allergie, asthme, BPCO, tuberculose. Toutes vos questions sur la santé respiratoire à partir de 9h10 temps universel. À demain avec Igor et d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.